Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur la réforme de la commission électorale en Côte d'Ivoire depuis maintenant 3 ans. L'opposition dénonce une commission déséquilibrée à la faveur du pouvoir. Du coup, pour éviter des tensions en vue de la présidentielle de l'année prochaine, eh bien le président Ouattara a promis de réformer l'institution. Seulement voilà, le gouvernement propose seulement une recomposition de la commission, alors que l'opposition, elle réclame une refonte totale. Certains réclament même d'exclure tout simplement les représentants des partis politiques. Alors cette polémique est-elle justifiée? Quelle serait d'ailleurs pour vous, vous qui êtes sur place en Côte d'Ivoire, la composition idéale de la commission électorale? On en parle ensemble ce matin sur RFI 33 9 693 693 70. J'ai déjà sous les yeux plusieurs dizaines de commentaires postés sur WhatsApp et sur Facebook. J'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI, Claire Fage, que l'on retrouve tous les jours pour la chronique des matières premières, est à mes côtés. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Je vous ai demandé de venir, Claire, car vous suivez de près la crise du cacao et on a encore des questions concernant cette actualité. Aimé, soyez le bienvenu, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako et nous vous écoutons avec Claire Fage.
D'accord, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. La PEPRA et le Ghana viennent de subir un échec face aux opérateurs de la filière cacao, à qui ils demandent un prix plancher de 2 600 $ la tonne. Mmh. Alors, à quoi est dû l'échec de cette rencontre? Et comment ont réagi la Côte d'Ivoire et le Ghana?
Pas question de vendre à moins de 2 600 $ la tonne de cacao. Voilà la mise en garde des deux principaux pays producteurs mondiaux de cacao. Effectivement, il y a eu la semaine dernière, Claire Fage, une réunion importante. La Côte d'Ivoire et le Ghana, visiblement, n'ont pas réussi à convaincre les industriels. Mais peut-on parler tout de même d'échec, comme l'affirme notre auditeur?
Non, ça n'est pas vraiment un échec. Disons qu'il y a des lenteurs dans les négociations. Le 12 juin, il y a donc eu cet ultimatum. Pas de tonnes de fèves en dessous de 2 600 $ la tonne pour la récolte 2020-2021. Mmh. Ensuite, il y a eu cette réunion au Ghana. La filière avait l'air d'accord sur le principe. Maintenant, il faut vraiment préciser le mécanisme qui va permettre d'augmenter le prix aux producteurs. Donc, 2 600 $ la tonne, c'est le prix de la tonne de fèves, mais ça se décompose. Il y a le prix donc pour les producteurs. Ce serait un différentiel de 400 $ maintenant que demandent la Côte d'Ivoire et le Ghana.
Ça veut dire quoi 400 $? Un minimum de 400 $ la tonne pour les producteurs,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc après, comme c'est un différentiel qui serait fixe, ça fait un petit peu grincer des dents certains intervenants de la filière, comme je pense les négociants, parce que l'industrie a l'air d'être partante. Mmh. Mars, le grand chocolatier...
Chocolat,
a même fait une déclaration dans ce sens. Le syndicat français du chocolat s'est engagé aussi à aller dans ce sens d'un différentiel de 400 $. Visiblement, c'est plus peut-être chez les intermédiaires qui ont peur que tous leurs clients ne respectent pas le jeu. Donc eux, ils n'ont pas d'assurance qu'en versant ce différentiel de 400 $, ils rentreront dans leurs frais et qu'ils auront encore quelques marges pour survivre. Un négociant rappelait, quand je l'ai joint, que quand il y a eu la désorganisation de la filière en Côte d'Ivoire, énormément de négociants ont disparu de la place parce qu'ils n'avaient plus du tout de marge.
Ouais, on rappelle que l'objectif, c'est d'obtenir un prix plancher pour mieux rémunérer les producteurs. Comment réagissent pour l'instant le Ghana, la Côte d'Ivoire, ces deux pays qui sont les deux principaux pays producteurs de cacao au monde, sont optimistes?
Ouais, disons que les visages, d'après notre correspondant sur place, était un peu fermé au sortir de cette réunion, mais c'est une réunion de travail, une première réunion technique, et ça, la filière insiste là-dessus. Les négociations ne sont absolument pas terminées, le travail va continuer pour définir un mécanisme consensuel pour toute la filière du cacao et du chocolat.
Donc les négociations vont se poursuivre. Aimé, a-t-on répondu à vos questions?
Oui.
Eh bien, on vous souhaite une belle journée à Bamako et merci d'écouter RFI tous les matins. Bamako, il est 8h15. À bientôt, Claire Fage.
À bientôt.
Bonne journée. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Kossi, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Lomé, au Togo.
Oui.
C'est bien ça, on vous écoute.
Il y a un an, l'Éthiopie et l'Érythrée se sont réconciliés après 20 ans de conflit. Et 3 mois plus tard, un accord de paix a été signé. Pourquoi les deux accords sur les frontières n'est toujours pas résolu entre les deux pays?
Ah, bonne question que vous posez effectivement, Kossi. Il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était le 9 juillet 2018, les deux frères ennemis de la Corne de l'Afrique annonçaient leur réconciliation après 20 ans de guerre. René Lefort, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Éthiopie, chercheur indépendant. En un an, il y a eu tout de même des gestes symboliques, des actions symboliques. Je pense à la réouverture des ambassades, à la réouverture de plusieurs postes frontières, la reprise du trafic aérien entre les deux pays. Il y a eu cet accord de paix dont parlait à l'instant notre auditeur. En revanche, concernant la démarcation de la frontière, le dossier n'est toujours pas réglé, alors que c'est quand même le principal contentieux entre les deux pays.
Non, vous allez un peu trop vite, hein, parce que en réalité, il y a 4 postes frontières qui ont été rétablis, et puis ils ont été peu à peu fermés par Isaias Afwerki, le président de l'Érythrée, sans aucune explication. Donc il n'y a plus de postes frontières ouverts aujourd'hui.
Plus aucun, je pensais qu'il en restait un ou deux encore.
Non, il en reste zéro. Mmh. Mais alors, si vous voulez, surtout ce qui est important, c'est que l'engagement qui était pris le 9 juillet, c'était un texte de quelques lignes, hein, qui disait entre autres que, je traduis, les gouvernements vont forger des liens intimes, politiques, économiques, sociaux, culturels, en matière de sécurité, etc., etc. Et au-delà de cette déclaration de principe, il y avait donc 2 commissions qui devaient être établies. Une pour régler la question de la frontière, justement, et la deuxième, pour mettre en place une coopération entre ces deux pays qui étaient quasiment en état de guerre depuis 1998.
Mais qu'est-ce qui bloque concernant la frontière? Je sais que le dossier est compliqué.
Mais qu'est-ce qui bloque? Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Ah. C'est que de ce qu'on sait, rien n'avance en tous les cas. Et c'est pour ça, un an après, on s'interroge vraiment. Rien n'avance, soit du côté de Isaias Afwerki, soit du côté de Abiy Ahmed. Pour le moment, ce qui reste vraiment de concret, il y a trois choses qui restent concrètes. Les vols de Ethiopian Airlines jusqu'à Asmara.
Oui.
La deuxième chose concrète, c'est l'ouverture des ambassades. Mm-hmm. Et la troisième, c'est un projet de ligne ferroviaire qui relierait le réseau éthiopien aux deux grands ports de Assab et de Massawa en Érythrée et qui serait subventionné par des Italiens. Mais pour le reste, il ne se passe rien, je le répète. En tous les cas, on ne sait rien.
On ne sait rien.
Alors, ces comités ne travaillent pas, ou s'ils travaillent, ne disent rien de ce qu'ils font.
Alors, avez-vous peut-être un élément de réponse à la deuxième question de Kossi? Kossi?
Si, cet accord devait permettre de meilleures opportunités commerciales pour les pays. Est-ce le cas? Et quelles ont été les retombées positives sur l'économie éthiopienne?
Ah, les retombées économiques et commerciales pour l'Éthiopie, c'est vrai que l'Éthiopie, en se rapprochant de l'Érythrée, espérait avoir accès notamment au port érythréen, puisque l'Éthiopie n'a pas accès à la mer. Qu'en est-il aujourd'hui?
Mais c'est ce que je vous explique. Donc il y a ce chemin de fer qui est en projet,
oui,
financé par les Italiens, mais pour le moment ce n'est qu'un projet, on fait des idées de faisabilité. Sur le plan économique, l'Éthiopie n'a absolument rien gagné dans cette affaire, parce qu'il n'y a pas de commerce à travers cette frontière. Le grand gagnant, c'est l'Érythrée. Parce que l'Érythrée était frappée par des sanctions extrêmement lourdes, hein, et le fait qu'elle ait conclu cet accord de paix avec l'Éthiopie a amené à la levée de toutes ces sanctions. Donc, à des possibilités accrues, en particulier d'investissements étrangers. Sur le plan économique, l'Érythrée est le grand gagnant. Sur le plan économique, l'Éthiopie n'a pour le moment rien gagné.
D'accord. Ça a le mérite d'être clair et d'être concis, René Lefort. Kossi, est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Parfaitement.
Parfaitement. Eh bien, on remercie René Lefort, chercheur indépendant, spécialiste de l'Éthiopie. Bonne journée à tous les deux. Appelez-nous. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine prochaine, à l'occasion du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, nous vous proposerons une émission spéciale avec des experts. Nous répondrons à toutes vos questions. Donc, allez-y. On a posté 2-3 fois cette annonce sur la page Facebook de l'émission. Nous avons reçu des dizaines de questions et de commentaires, donc continuez, on fera une sélection évidemment et on consacrera donc l'émission spéciale la semaine prochaine à la conquête lunaire. Allez, on repasse au standard avec des questions sur le dialogue au Venezuela. Vous avez certainement suivi l'information en écoutant RFI. Bonjour Bouna.
Bonjour à tous.
Vous nous appelez de Nouakchott en Mauritanie, nous vous écoutons.
Moi, par rapport au Venezuela, les deux leaders, Juan Guaido et Nicolas Maduro, vont entamer à la Barbade un nouveau round de négociations. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a favorisé ce round alors que Juan Guaido semblait plutôt refuser toute forme de négociation? Et qu'est-ce qu'on peut espérer lorsqu'on sait que tous les deux, jusqu'ici, ils campaient sur les positions effectives?
Ouais, quelles sont les chances de succès de ce dialogue? Bonjour Thomas Posado.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques à l'université Paris 8, spécialiste du Venezuela. Il y a encore quelques jours, le président autoproclamé Juan Guaido écartait l'idée de retourner à la table des négociations avec le pouvoir. Comment expliquer ce revirement?
S'il refusait ou s'il faisait paraître qu'il voulait refuser, c'est qu'il y a une partie de l'opposition qui est hostile à ces négociations, qui considère que c'est une manière pour le gouvernement Maduro de gagner du temps, parce qu'il y a eu plusieurs négociations en République dominicaine il y a un peu plus d'un an, qui ont à chaque fois échoué et où le gouvernement Maduro a donné l'impression de gagner du temps dans ces négociations. Si elles arrivent aujourd'hui, c'est qu'en fait les deux acteurs sont dans une situation de faiblesse et d'impasse d'un côté comme de l'autre. Du côté de Juan Guaido, la stratégie d'appel au soulèvement des forces armées est un échec depuis plusieurs mois. Il y a eu une affaire de corruption sur plusieurs de ses envoyés qui détournaient de l'aide humanitaire il y a un peu plus d'un mois, qui a été révélé. Et du côté de Nicolas Maduro, il y a un rapport accablant qui a été diffusé par Madame Bachelet, par l'ONU ces derniers jours, et qui met en cause le niveau de répression, le niveau de satisfaction des droits les plus élémentaires pour les Vénézuéliens. Donc on a deux personnes qui ne peuvent pas sortir de la crise autrement que...
Évidemment, mais enfin, on a quand même l'impression, mais peut-être que je me trompe, Thomas Posado, que Nicolas Maduro, le président, est en position de force par rapport à Juan Guaido, qui lui est en perte de vitesse. Vous le disiez, quand il appelle au soulèvement, il n'y a personne. Quand il appelle à manifester, il y a de moins en moins de monde. Donc finalement, la seule façon pour lui d'exister aujourd'hui sur la scène politique au Venezuela, c'est d'aller négocier.
Complètement. C'est principalement la raison pour laquelle il doit négocier pour pouvoir continuer à exister. La position de force de Nicolas Maduro, je pourrais la nuancer parce que la crise continue à se développer au Venezuela et on a une crise qui se développe de manière exponentielle, une inflation qui continue, un cycle infernal où on parle de 10 millions de % cette année et où les difficultés quotidiennes pour les Vénézuéliens sont de plus en plus graves et où Nicolas Maduro n'est pas en mesure de sortir le pays de cette ornière. Donc effectivement, il continue de contrôler le pays, mais dans une situation qui est dramatique pour les Vénézuéliens et qui n'est malheureusement pas durable.
Quelles sont les chances de succès de ce troisième round de dialogue qui a repris à la Barbade?
Les
chances de succès, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de concret?
Pour l'instant, c'est un échec total. Enfin, on a deux camps qui comptent sur des positions extrêmement fortes et où visiblement il n'y a pas d'ouverture pour que ces troisième rounds de négociations après celui de Norvège et de Suède soient plus couronné de succès que les deux précédents. Juan Guaido pose comme préalable la cessation de l'usurpation, donc c'est-à-dire le départ de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, la seule chose qu'il a proposé, c'est de convoquer des nouvelles élections législatives, c'est-à-dire la seule assemblée qui est aux mains de l'opposition. Ouais. Tant qu'on reste sur des positions aussi maximalistes, il n'y a aucune possibilité d'ouverture ni de consensus. les difficultés économiques que connaissent le Venezuela et l'échec total de la stratégie de Juan Guaido pourraient permettre une stratégie d'ouverture, mais effectivement, une issue favorable de ces négociations n'est pas l'option la plus probable aujourd'hui.
Merci Thomas Posado d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Bouna, qui nous appelait de Nouakchott. Il nous reste 5 minutes, le temps de prendre la dernière question ce matin, mais on revient demain, donc continuez à appeler 33 9 693 693 70. Robin Guittard, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole d'Oxfam France, nous vous avons contacté ce matin car Saliou, à Bamako, vous a entendu il y a quelques jours sur notre antenne au sujet du nouveau rapport d'Oxfam. Bonjour Saliou.
Bonjour Monsieur Rouen, bonjour à tous les auditeurs de la radio France Internationale.
Vous avez des questions justement sur ce rapport?
Oui, effectivement Monsieur Rouen. L'ONG Oxfam International vient de publier un rapport sur les inégalités sociales dans le Sahel qui exacerberait la crise sécuritaire de la région. Alors je souhaiterais savoir, que nous apporte de nouveau ce rapport sur les liens entre inégalités sociales et insécurité?
Ah, on va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question. Robin Guittard, le Sahel où la violence et l'insécurité se propagent. Dans ce rapport, Oxfam dit « La sécurité sécuritaire que connaît le Sahel prend racine dans les inégalités ». J'aime la question de notre auditeur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce rapport, finalement? Parce qu'on a déjà entendu ces propos-là et cette analyse-là.
Oui, effectivement. Nous, ce qu'on dit dans ce rapport, c'est on analyse un peu la problématique des inégalités dans la région du Sahel. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de fortes inégalités, notamment dans l'accès aux services les plus essentiels comme la santé, l'éducation, et qui sont extrêmement marquées, notamment entre les plus riches et les plus pauvres, mais aussi entre les urbains, les ruraux, et entre les femmes et les hommes. Par exemple, au Burkina, un enfant de la ville va passer en moyenne 11 ans à l'école, quand un enfant d'une zone rurale, seulement 4 ans. Donc du coup, forcément, ces inégalités qui sont extrêmement marquées alimentent très dangereusement un sentiment d'injustice qui est vraiment profondément ancré au Sahel et qui lui-même crée tension, méfiance envers les gouvernements, mais aussi tension entre communautés. Et c'est pour ça qu'avec ce rapport, ce qu'on veut apporter, c'est que aussi dans les réponses qui sont apportées tant par les États sahéliens que par la communauté internationale, il faut absolument remettre la question de la lutte contre les inégalités au centre des réponses.
Alors vous parlez justement des réponses, j'ai interrompu Saliou, vous avez une deuxième question concernant justement les solutions à proposer.
Oui, effectivement. Quelles actions faudrait-il entreprendre selon ce rapport pour trouver des réponses concrètes?
Ah, réponses concrètes, Robin Guittard.
Alors, pour Oxfam, il y a trois axes à enclencher. Il y a un premier axe sur la question de la fiscalité dans les pays du Sahel. Nous, ce qu'on voit avec ce rapport, c'est que les politiques fiscales sont particulièrement régressives, c'est-à-dire elles ont un impact beaucoup plus important sur les plus pauvres, sur les femmes. Et donc, ce qu'on appelle, c'est qu'il faut une refonte des politiques fiscales pour qu'elles soient plus progressives, pour qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses. Et aussi, notamment, un grand point d'attention, c'est qu'il faut arrêter la course vers la multiplication toujours plus d'exemptions fiscales qui bénéficient particulièrement aux multinationales souvent étrangères, et qui par exemple au Mali d'où vient l'auditeur, ça représente plus de 3,5 fois le budget total de l'éducation de l'État malien. Donc c'est des revenus qui manquent pour ces pays. Et le deuxième axe justement qui est lié à ça, c'est avoir suffisamment de revenus pour réinvestir massivement dans des politiques sociales qui puissent permettre de mettre en place sur tout le territoire des services publics de santé et d'éducation qui soient de qualité et inclusif, notamment envers les femmes et les jeunes filles. Et enfin, un grand point d'attention, c'est sur la question de la gouvernance. Il y a un vrai enjeu fondamental dans les pays du Sahel à améliorer la gouvernance de ces pays. Ces dernières années, on le voit, il y a une multiplication de mouvements citoyens, notamment des plus jeunes, qui demandent plus de démocratie, plus de transparence, plus de justice. C'est des mouvements comme le Ballet Citoyen, par exemple, au Burkina Faso, ou il y en a marre au Sénégal. Et c'est important aussi que, justement, la gouvernance soit réformée pour garantir voilà, la voix et la liberté d'expression de tous et toutes dans les pays sahéliens.
Voilà qui est dit. Merci Robin Guittard, porte-parole d'Oxfam France. Bonne journée, salut et à bientôt, je l'espère, sur l'antenne de RFI. Bonne journée à Bamako. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, vous continuez à nous appeler. Le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, sans oublier évidemment de nous indiquer un numéro de téléphone. Le principe de l'émission, vous le connaissez, c'est de vous vous entendre à l'antenne. Donc sans téléphone, on ne peut pas vous rappeler, évidemment. Allez, on marque une pause, on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour notre débat du jour autour de la polémique concernant la future commission électorale en Côte d'Ivoire.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.